10 questions à une émission de Fréquence Mistral en partenariat avec l'école de la deuxième chance des Alpes de Haute-Provence.
Anne Tategrin, directrice de l'IAP qui gère l'école de la deuxième chance sur le 04. C'est un dispositif qui est financé par l'État et la région, qui accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet d'insertion professionnelle. Parallèlement, il y a une remise à niveau sur les compétences socles, tout ce qui est raisonnement, compréhension. Et soit les jeunes après partent en centre de formation, soit ils vont vers l'emploi, le marché ordinaire du travail. Ils sont déscolarisés, soit ils ont arrêté le système traditionnel, soit ils ont fait des premières années de lycée pro ou centre de formation des apprentis. Ils sont issus de l'ensemble du département des Alpes de Haute-Provence. Et on a une école basée à Manosque qui accueille les jeunes du sud du département et une à Digne qui accueille les jeunes du nord du département. Ce partenariat a été initié pour permettre aux jeunes de travailler sur la confiance en soi, sur l'expression orale, savoir aussi communiquer assez facilement et prendre surtout de l'estime de soi.
10 questions à, c'est tout de suite. D'abord, on va peut-être vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 21 ans et je suis élève à l'E2C depuis le début d'année 2024. Et moi, mon parcours, ça serait de faire éducateur canin et essayer de me spécialiser soit dans l'armée ou dans un truc comme ça et essayer le plus possible. Voilà.
Donc bonjour, je m'appelle Piel, j'ai 20 ans. Je suis rentré à l'école en même temps que Vincent et je sais pas encore ce que je veux faire. Je m'oriente soit vers la communication ou le graphisme, donc je vais tester avec des stages pour voir ce que je veux faire.
Donc aujourd'hui, on voulait savoir un peu le parcours de Marissa Kamer. Si ça se présente bien. On aimerait savoir qu'est-ce qui a entraîné un changement de cap dans votre parcours pour passer de la médecine au métier du son.
Eh bien, bonjour à vous deux. Alors, qu'est-ce qui a changé? Un truc assez simple, la médecine, c'est un concours.
Ouais.
Et on l'a ou on l'a pas. Et je ne l'ai pas eu. Donc la médecine, j'ai tourné la page de ce côté-là. Et puis après, quand j'ai voulu me réorienter, je me suis posé beaucoup de questions. Après, c'est plutôt le côté hobby, passion qui m'a plutôt guidée vers le son d'abord. Moi, c'était plutôt le son qui m'a attirée. Ouais. J'ai passé un BTS pour devenir technicienne du son. Et en passant ce BTS-là et en recherchant des entreprises, parce que je voulais faire de l'alternance, je me suis retrouvée à Fréquence Mistral. Voilà. D'accord. Et donc dans la radio.
D'accord. Et du coup, comment une technicienne s'est propulsée au poste de directrice de la radio ?
Propulsée, ouais, c'est peut-être un peu le mot, parce que c'est arrivé assez vite. C'était pas l'objectif du début. Moi, mon objectif de carrière, entre guillemets, c'était d'être technicienne, ou en tout cas, j'ai son, tout ce qui tournait autour de ça. Je me suis retrouvée directrice un peu par hasard. C'était un fait de moment, c'est-à-dire qu'il y avait un directeur à Fréquence Mistral qui était sur le départ à la retraite. Il y a eu une passation avec une autre personne qui prenait le relais, donc ils ont travaillé tout un an ou un an et demi ensemble pour justement faire la passation. Et puis ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. La personne qui aurait dû prendre le relais, il y a eu un peu des désaccords, elle est partie, et à ce moment-là, on s'est retrouvé à la radio à se dire, le technicien qu'on avait en tout cas envisagé, le directeur qu'on avait envisagé, ça le fait pas, donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Et on était dans un moment où on se posait beaucoup de questions, on voulait faire ça un peu en interne. Quand je dis on, c'est Fréquence Mistral. Hein. Mmh. Le but, c'était de faire ça un peu en interne, donc il y a eu des discussions, il y a eu ce qu'on appelle un PCRH. Donc c'est il y a eu un audit, voilà, des ressources humaines de la radio, et bon, il s'est révélé que plusieurs personnes pouvaient faire l'affaire, et de fil en aiguille, c'est moi qui ai pris le poste.
D'accord. Et tu regrettes pas de ne pas, est-ce que tu fais encore ton truc de technicien son ou plus du tout? Et
oui,
tu regrettes?
Alors
un peu
oui, parce que pareil, par la force des choses, on peut pas remplacer tout le monde du jour au lendemain. Donc j'ai récupéré des compétences de directrice, mais j'ai pas non plus totalement lâché mes compétences de technicienne. Là, je commence à le faire que maintenant. Donc ça fait 2 ans que je suis directrice.
Okay.
Et c'est maintenant que je commence un peu à déléguer, parce qu'on a pu juste embaucher des gens pour pouvoir le faire, ce qui n'était pas le cas avant.
D'accord.
Mais du coup, ton poste de directeur, il consiste en quoi ?
Ah ben c'est un poste de directeur, j'allais dire un peu classique, c'est de la gestion, de l'administratif, de la RH, voilà ce genre de choses. Après il y a là forcément les particularités de la radio. La particularité de la radio, c'est ce que nous on appelle le FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est spécifique aux radios associatives, qu'il faut gérer en permanence toute l'année. Il y a les relations avec l'ARCOM, l'ARCOM qui nous donne les autorisations d'émettre, donc pareil, il y a des relations un peu spécifiques pour la radio, mais après le reste, c'est un boulot de directeur vraiment très très classique.
Et le secteur de diffusion de Fréquence Mistral ?
Alors, quand vous parlez du secteur géographique ?
Ouais.
Oui. Alors, Fréquence Mistral, c'est presque toute la région sud. C'est-à-dire qu'on a 9 émetteurs.
Oui.
Ça va de Briançon à Marseille, d'Avignon à Monaco. On en a un qui est hors territoire français. Et donc, on a 8 studios.
D'accord.
Donc c'est vraiment, il y en a un par département, sauf le 83. Et donc le 06, bon, c'est plus pris par Monaco, mais le 83 arrive. On a eu une autorisation d'émettre là très dernièrement, là il y a 3 mois par l'ARCOM. Donc on va avoir bientôt un studio sur le 83 à Fréjus.
D'accord.
Ok. Bon, du coup vous y avez déjà un peu répondu, mais à part le 83, vous comptez étendre encore votre secteur de diffusion ou...
Non. Le but, c'est vraiment de rester dans la région sud. Après, on peut toujours avoir des autorisations supplémentaires et des antennes supplémentaires pour venir compléter ponctuellement certaines fréquences, pour faire en sorte que quand vous vous baladez dans la région, vous puissiez nous entendre partout. Donc le but, c'est peut-être compléter le parc qu'on a aujourd'hui, mais on ne va pas s'étendre au-delà de la région sud.
D'accord.
Et donc Monaco, vu que c'est... pas le territoire français. Est-ce que c'est différent pour la fréquence ? Est-ce qu'il y a...
Oui. Alors, rien à voir. Monaco, du coup, n'est pas contraint comme le reste du territoire français. Donc, il n'y a pas d'ARCOM à Monaco. Ce qui fait que l'émetteur qu'on a aujourd'hui à Monaco, c'est un émetteur très puissant, qu'on n'aurait pas eu en dehors de... Enfin, en tout cas en France. Les règles ne sont pas du tout les mêmes. À Monaco, c'est assez simple, en fait. À partir du moment où vous payez... vous avez le droit d'émettre. Voilà.
D'accord.
Okay. C'est juste ça.
Mais du coup, c'est les mêmes choses qui sont diffusées à Monaco et
oui,
en France.
Oui. On est exactement sur le même genre de programme, avec la spécificité de dire que c'est depuis Monaco. Mais sinon, c'est exactement la même chose que sur les antennes d'Avignon, Briançon, etc.
Est-ce qu'il y a un profil type d'émission diffusée sur la radio ou ça varie le plus possible ?
Alors, un profil type, non, on peut pas dire ça comme ça. On a une ligne éditoriale. Donc le but, c'est de coller à la ligne éditoriale. Après, à partir du moment où vous rentrez dans la ligne éditoriale, n'importe quelle émission peut convenir. Après, quand on parle d'émission, il y a toujours des spécificités. Il y a la durée, il y a qui la présente. Ça peut être les salariés, ça peut être les bénévoles. Donc il n'y a pas de profil type. À partir du moment où on colle à la ligne éditoriale et que la personne a envie de le faire, que ce soit un salarié ou un bénévole, ça rentre.
Okay. Et du coup, vous gérez comment la programmation de ces émissions, le choix des invités ?
Alors, c'est pas simple de répondre d'un coup. La particularité de Fréquence Mistral, effectivement, c'est son nombre d'antennes. Chaque antenne a son territoire, et le territoire donc, de la région sud est assez vaste. Donc chaque antenne a ses spécificités de territoire. Ce que vous avez à Briançon... qui est une antenne donc, qui court en montagne, à proximité de zones touristiques par rapport aux stations de ski, etc., ne va pas proposer la même chose que Marseille en zone urbaine. Donc, à partir de ce moment-là, chacun va proposer un peu la spécificité de son territoire. Après, le défi, on va dire, c'est de pouvoir mêler tout ça et de faire en sorte que ça devienne cohérent à l'antenne et que quelqu'un, en tout cas qui l'écoute en mode régional, puisse se retrouver... qu'il l'écoute à Marseille ou qu'il l'écoute à Avignon, même si c'est un programme qui vient de Briançon.
Ouais.
Donc c'est cette spécificité-là et c'est cette difficulté-là. Mais à partir du moment où tout le monde est volontaire et tout le monde a quelque chose à proposer, a priori, ça peut intéresser tout le monde.
D'accord.
Et est-ce que vous savez le nombre d'auditeurs qui écoutent la radio par jour ou par mois ou...
Alors, aujourd'hui, non. Là, je pourrais pas vous dire, on a tant d'auditeurs. Par contre, depuis le début de l'année, donc c'est-à-dire depuis le 1er janvier, on a lancé une
audiométrie.
Oui, c'est ça. On passe par médiamétrie. En gros, c'est une étude. Une étude des auditeurs. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas 30 façons de savoir le nombre d'auditeurs, que ce soit pour les radios ou pour les télés. Quand D'accord. vous regardez la télé et qu'on vous dit, bah, hier, ce programme a rassemblé 2,3 ouais. millions de personnes, il passe par ce qu'on appelle médiamétrie, donc qui est un organisme qui se charge de faire le recensement du nombre de téléspectateurs ou d'auditeurs. Et donc, cette année, on a décidé donc, de passer par médiamétrie pour pouvoir faire cette étude-là et pour savoir combien d'auditeurs réellement on avait. Donc là, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire combien d'auditeurs. Par contre, si vous revenez en fin d'année, je pourrais vous donner un chiffre précis.
D'accord, donc c'est par année. Médiamétrie, l'étude ça donne un sur bilan l'année. Sur l'année.
Quoi. Là, l'étude va se faire sur l'année, oui.
Ok, d'accord.
Et du coup, est-ce que vous savez à peu près à quoi ressemble le profil de l'auditeur classique de France Mistral, l'âge?
C'est pareil, c'est assez compliqué, on le saura à la fin de l'année. Alors je pense qu'il y a encore quelques années, on avait un profil cinquantenaire, je dirais. Tout simplement parce que bah parce qu'on travaillait pas dans ce sens-là, et puis parce qu'on était très aussi rural, et que c'était un peu plus le genre de personnes qui écoutaient la radio dans ces domaines-là, en tout cas dans ces zones-là. Depuis 2020, on a commencé à venir sur un secteur plus urbain, donc avec l'ouverture de Marseille, puis après avec l'ouverture d'Avignon. Monaco est arrivé à peu près au même moment. Et puis notre ligne éditoriale a aussi varié. Donc dans notre ligne éditoriale, on a fait en sorte d'aller intercepter des auditeurs plus jeunes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la moyenne d'âge a baissé. Pour autant, on n'a pas oublié ceux qui étaient là avant. Donc on a élargi notre spectre avec, je ne pourrais pas vous dire avec précision... Quel âge, quel est le type d'auditeur, ouais. Mais je pense qu'on peut dire entre des trentenaires et des soixantenaires, sachant qu'en plus, depuis un an et demi maintenant, on a développé l'éducation aux médias. Donc on va intervenir dans les établissements scolaires. Et forcément, en intervenant dans les établissements scolaires, on va toucher des plus jeunes qui après vont nous écouter.
D'accord. Et du coup, il n'y a pas longtemps, il y a eu la journée internationale de la radio.
Oui.
Qui est passée. Et on aimerait savoir depuis quand Fréquence Mistral existe, la radio, depuis quand a-t-elle débuté?
Alors Fréquence Mistral est née en 83, donc ça fait 41 ans cette année, ça va faire 41 ans. Oui c'est ça, c'est à peu près le début, les radios associatives entre guillemets ont été autorisées en 81 et Fréquence Mistral est née en 83, donc à peu près au début des radios libres, radios associatives. Donc voilà, 40 ans.
D'accord.
Ok. Est-ce que pour la journée de la radio, du coup, vous avez eu une programmation spéciale?
Non, pas cette année. On n'a pas fait de programmation spéciale. On n'est pas encore tout à fait rodé. Il faut savoir que depuis que j'ai pris la direction, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc il y a pas mal de travail aussi autour de ça. On a reconstruit une grille des programmes qui était existante, hein, mais qui n'était pas développée comme elle l'est aujourd'hui. Donc petit à petit, on essaie de faire les choses. Cette année, on n'a pas pu faire quelque chose de spécifique pour la journée de la radio. Mais pourquoi pas l'année prochaine, oui, on sera prêt.
Ouais.
Là, on ne l'était pas, mais l'année prochaine, pourquoi pas, oui.
Je suppose qu'il y a un thème qui est abordé cette journée, de la journée internationale de la radio, qui a un thème précis, s'il y en a un ou pas. Et est-ce que vous êtes obligé de le suivre?
Non. Alors, s'il y a un thème précis, c'est possible, mais comme je vous ai dit, cette année, je me suis pas forcément... on n'a pas vraiment eu le temps de travailler là-dessus. Alors, il y en a peut-être un. Pour autant, comme on ne travaillait pas dessus, on s'est pas forcément intéressé. Mais là, avec précision, je pourrais pas vous dire.
D'accord.
Okay. Mais du coup, alors depuis que vous êtes dans le domaine de la radio et surtout depuis que vous êtes devenue directrice, est-ce que vous avez constaté une évolution du domaine de la radio?
En général?
Ouais.
Non, parce que ça fait trop peu de temps, ça fait que 2 ans que j'y suis, donc c'est trop court pour avoir vraiment un changement. Après, je pense que c'est pas juste la radio qui a changé, c'est-à-dire que depuis 2 ans, il y a l'après-Covid, il y a les crises qui se sont enchaînées, donc je pense que tout le monde a été impacté par ça, et pas que la radio.
D'accord.
Donc il y a eu un changement partout. À la radio, oui, forcément, on a été touché, mais pas plus ou pas moins que d'autres entités.
Okay. Et du coup, l'évolution de Fréquence Mistral, depuis que vous êtes directrice, vous avez vu une évolution?
Oui, en tout cas j'espère. oui, bien sûr. Alors il y a eu des hauts débats. Quand j'ai commencé, on était plutôt sur un bas. On a réduit notre équipe de 5 salariés. On était, je sais pas, quelque chose comme 16 ou 17. Donc on a perdu du monde, malheureusement, mais ça c'était un facteur économique. On ne pouvait pas y échapper. Après, voilà, le but depuis 2 ans, c'était un peu de redresser tout ça, faire en sorte que, bon, on puisse récupérer du personnel, parce que bon, on a été réduit d'un tiers. C'est lourd d'un coup. Donc là, petit à petit, on est sur la pente ascendante. On commence à avoir de nouveau du monde. On a réembauché dernièrement. On a aussi réembauché sur des compétences différentes. C'est-à-dire qu'avant, on était très polyvalents tous. Mais il n'y avait pas de compétences particulières dans des domaines particuliers. Et on a voulu un peu professionnaliser tout ça. Plus dans le côté technique. Là, on a doublé, entre guillemets, notre équipe technique, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait un technicien pour 9 antennes, ce qui était un peu compliqué. Ouais. Et là, ils sont 2, plus moi en joker. Mais ils sont 2 et ils ont chacun leur spécificité. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'aller chercher les compétences au service de la radio. Et je pense que c'est de ce côté-là que ça a le plus changé, plus nos activités, forcément, qui aussi n'étaient pas exponentielles, mais quand même. Les animateurs pourront en témoigner. On a fait beaucoup, beaucoup de changements. Donc oui, il y a eu du changement. Après, du changement positif, pas au début, mais maintenant, je pense que ça commence à se faire ressentir.
Okay. D'accord.
Comment vous voyez l'avenir de la radio en général avec l'arrivée des plateformes de streaming comme Twitch, etc., qui peut-être touchent plus les jeunes, mais qui commencent à se démocratiser
Je pense qu'on n'a pas le même objectif. On ne touche pas le même genre de personnes. Je suis pas sûr que les plateformes de streaming comme celles que vous avez citées viennent toucher notre domaine de compétences à nous. Déjà, bon, c'est pas la même façon de diffuser les choses. Les plateformes, après, c'est pareil. Les plateformes, c'est des plateformes commerciales. Nous, on n'a pas de visée, en tout cas, à Fréquence Mistral, on est associatif, donc on n'a pas de visée commerciale. Donc on va pas toucher les mêmes genres de personnes, on va pas avoir les mêmes objectifs. Donc on va pas se marcher dessus. En tout cas, en tant que radio associative, peut-être que ça impactera plus les radios commerciales, mais ça, il faudra leur demander à eux, j'en sais rien. Mais nous, en tant que radio associative, non, je pense pas qu'il va y avoir un grand changement.
D'accord. Et vous avez des projets pour 2024 ?
Il y a toujours des projets.
Si vous pouvez nous en citer quelques-uns.
Oui, bah, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu l'autorisation à Fréjus, donc le but, ça va être de lancer Fréjus en 2024. Voilà, de trouver des locaux, de monter un studio, d'embaucher à Fréjus, de renforcer l'équipe qu'on a actuellement, parce que l'activité grandit, donc il va falloir renforcer l'équipe qu'on a, de continuer à faire ce qu'on fait, mais de manière pérenne et durable. Je pense que voilà, c'est déjà des objectifs, si on arrive à les tenir, c'est pas mal.
D'accord. Mais ouvrir une antenne, vu que vous êtes une radio associative, il y a forcément des fonds à trouver, des salariés à recruter,
oui.
Des bénévoles.
Oui.
Et tout ça, ça doit être compliqué pour une...
Oui, tout ça, c'est un coût. Alors après, l'avantage d'être radio associative, c'est le fameux FSER dont on parlait tout à l'heure, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui a 4 parties, on va dire. Il y a la partie travail de terrain, il y a la partie exploitation, qui est une subvention de fonctionnement. Il y a la partie équipement qui nous aide à acheter un nouvel équipement. Et puis il y a la partie installation qu'on touche une fois quand justement on ouvre une antenne.
D'accord.
Et donc on va avoir une certaine somme. Alors ça va pas tout faire, on va pas se mentir.
Oui.
Mais ça aide quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, alors nous on est un peu plus structuré, on a déjà 9 antennes. Donc on arrive à anticiper certains besoins. Mais quand une radio arrive tout simplement, en général elle commence, donc elle a 0. Il faut développer, et cette aide-là vient compenser en tout cas une partie des frais qui vont être engagés pour ouvrir. Et donc les radios même existantes ont déjà cette possibilité d'avoir cette subvention-là. Donc on va la toucher, donc on va commencer comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à lancer très rapidement une antenne qui normalement pourrait mettre 2, 3, 4, 5 ans avant de pouvoir commencer à faire les choses correctement. Là, ça va être plus rapide grâce à cette aide-là.
Ok. Et est-ce que, par exemple, pour retrouver la programmation de la radio, où est-ce qu'on peut aller pour trouver tout simplement ?
Le site internet. Voilà. www.fréquencemestrale.com, c'est la référence. On trouve tout sur ce site internet-là. Pareil, il est en pleine mutation. Pour l'instant, il est un peu... Bon, il est dans son jus, on va pas se mentir. Ouais. Hein, voilà. Mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Et le but, c'est quand même de le développer. Là, pareil, on va développer les réseaux sociaux. Donc tout ça va se mettre en place, à faire en sorte qu'on aura un peu plus de visibilité. Et pour parler de programmation spécifiquement, oui, là actuellement, vous pouvez trouver la grille de programme sur le site internet, toutes les infos dont vous avez besoin pour savoir ce que vous écoutez, à quelle heure vous l'écoutez.
D'accord.
Il y a tout.
Et la visibilité, du coup, ouais, pour une petite radio, c'est assez simple. Et vu que vous faites par département, vous avez chaque antenne différente. C'est pareil, leur système, est-ce qu'il y en a qui ont déjà les réseaux ou pas ?
Alors oui, disons jusqu'à dernièrement, chaque antenne avait ses réseaux sociaux. Le but aujourd'hui, c'est de rassembler tout ça, de faire en sorte que plus on est nombreux, plus on peut additionner les forces et faire en sorte d'être plus visible. Donc pareil, pour parler de réseaux spécifiquement, les réseaux sociaux, nous jusqu'ici on avait plusieurs pages Facebook, le but c'est de les rassembler, en faire une pour que toutes les infos, qu'on soit à Briançon, à Avignon ou à Castellane, on puisse les retrouver sur un site spécifique. Après, si on a des questions pour une antenne particulière, bien sûr, il y a les moyens de communication qu'on avait jusqu'à là, c'est-à-dire les numéros de téléphone, les adresses mail, ça existe toujours. Et puis les réseaux sociaux, on peut toujours contacter les gens via les réseaux sociaux, et après les animateurs concernés viendront viendront répondre au cas par cas, mais voilà, le but c'est de, comme je disais, d'additionner les forces pour faire en sorte d'être plus visible.
Et du coup, vous aimeriez faire aussi une antenne principale, enfin, ou pas, essayer de regrouper
On a déjà une antenne principale, en fait, notre siège il est à Manosque.
D'accord.
Et Manosque, par conséquent, est devenue l'antenne principale. C'est aujourd'hui, dans notre diffusion, quand on parle de diffusion régionale, c'est Manosque qui pilote. C'est-à-dire qu'on a des diffusions régionales et des diffusions locales. Les diffusions locales, c'est 6 heures par jour. Donc pendant ce temps-là, les 6 heures, chaque antenne fait sa programmation, chaque antenne envoie sa diffusion. Mais en dehors de ces heures-là, c'est Manosque qui est l'antenne régionale et qui pilote le reste des antennes.
D'accord.
Et par exemple, les podcasts des émissions, on peut les retrouver où Sur le site.
Sur le site internet.
En fait, on peut tout trouver directement là-bas.
Oui.
Okay.
Oui, pour l'instant, on part du site internet pour après développer les réseaux sociaux, mais de toute façon, notre cible, notre noyau dur, c'est le site internet.
Ok,
d'accord.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du partenariat avec l'école de la deuxième chance ?
Alors moi, spécifiquement, je suis pas la bonne personne. Je peux vous en parler, parce que là, on est en train de se parler, donc bien sûr. Mais je suis... À Fréquence Mistral, on se partage les choses aussi. C'est-à-dire que nous, chez nous, c'est Véronique Armand qui est en charge des partenariats. Donc c'est elle qui pilote l'ensemble des partenariats. Alors bien sûr, je suis au courant de ce qui se fait, mais je ne suis pas dans le détail. Donc là, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'avec l'E2C, on travaille sur plusieurs antennes. On travaille sur Digne, là, comme pour cette émission, mais on travaille aussi sur Sisteron, sur Manosque. On avait déjà travaillé par le passé, on va relancer les choses. Et puis j'ai entendu dire qu'il y avait aussi peut-être un projet sur Marseille, donc on va essayer de développer Marseille. Mais en tout cas, c'est un partenariat qui dure maintenant, et ça c'est une bonne chose, et on va faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible, parce que après ça donne des émissions qui j'espère sont de qualité, en tout cas celles que j'ai entendues avant la mienne sont de qualité, la mienne je sais pas, on verra après. Mais oui, c'est un partenariat important, ça permet à tout un chacun de s'exprimer, ça permet à vous de prendre... en main un micro, de conduire une émission, ce qui ne serait pas forcément accessible à tous. Donc c'est une très bonne chose et c'est quelque chose qu'on va continuer de faire, évidemment.
Ouais, c'est vrai que grâce à ça, moi qui n'écoute pas spécialement une radio en particulier, je vais peut-être commencer à écouter Fréquence Mistral dans ma voiture.
Ah, c'est une bonne chose.
Ouais, non, je trouve ça bien. C'est vrai que les jeunes et la radio, souvent, surtout maintenant, c'est éloigné.
Oui, pas tant que ça. Alors, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, effectivement. Mais malgré tout, je pense que c'est en train de repartir. Et puis, le fait que vous interveniez, que les radios puissent intervenir aussi dans les écoles, les établissements scolaires, ça aide. Ça aide à démocratiser ce qui était déjà démocratisé comme média, mais à rajeunir, du moins, ce média. C'est pas forcément évident tout de suite de penser à la radio, en tout cas l'associer aux jeunes, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça va revenir.
Oui,
on espère.
Ça, on espère. Et j'aimerais savoir si vous avez des partenariats avec, par exemple, des festivals locaux ou...
Alors, oui, bien sûr. On a toujours des partenariats avec chaque entité locale. Hein. Je sais qu'il s'est fait des choses là dernièrement à Briançon et à Gap avec un festival de jazz, l'Altitude Jazz, si je ne dis pas de bêtises. Il y a toujours des choses qui se font. Il y a un tremplin qui s'appelle Classe au Rock qui se fait du côté d'Aix. Enfin, en tout cas, ils ont quelque chose dans la région. Pareil, on a un partenariat avec eux. Donc, il y a plein de choses qui se font. Après, c'est pas forcément avec les gros festivals parce que c'est pas forcément notre cible non plus. Si vous prenez les gros festivals, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais le Delta à Marseille, bon, c'est pas trop notre cible. Et puis même, je pense que eux, ils ont pas forcément intérêt à s'associer avec nous. Mais on va plutôt aller chercher dans le festival local, dans le festival, on va dire, qui est accessible. Et puis, où on peut aussi accéder aux artistes, parce que c'est aussi ça, je pense, qui est intéressant pour tout un chacun, d'avoir un accès aux artistes qui passent sur ces festivals-là et qui puissent s'exprimer, et que, par exemple, des bénévoles ou des gens comme vous puissent aussi interviewer ce genre de personnes qui, en général, ne sont pas accessibles. La radio associative permet ça.
D'accord.
Okay. Et est-ce que Fréquence Mistral, du coup, l'antenne de Digne, en tout cas, diffuse 24 heures sur 24, 7 sur 7 ou...
24, 7 jours sur 7. C'est le but.
Et vous essayez de trouver des groupes locaux le plus possible à diffuser.
Oui.
Est-ce que vous avez beaucoup de demandes qui viennent vers vous?
C'est un peu des deux. Je pense qu'il y a forcément du démarchage, entre guillemets, qu'on a des groupes. Après, les différents partenariats aussi nous amènent à rencontrer des gens. On est aussi en contact avec les festivals. Des festivals, on rencontre des attachés de presse ou les attachés d'artistes. Et puis ces gens-là viennent vers nous font des propositions. Les labels, on travaille avec des labels aussi. Alors, il y a les gros labels, mais il y a les plus petits labels qui travaillent sur les territoires, sur les départements et qui sont en contact avec nous. Donc, oui. Oui, il y a plusieurs façons de démarcher, il y a plusieurs façons de rencontrer ces artistes, et ouais, c'est assez mix aujourd'hui.
D'accord.
Alors moi, j'ai envie, étant sur Digne, sur la radio Fréquence Mistral Digne, de rajouter peut-être des compléments d'information,
sûr,
puisque vous parliez d'artistes locaux.
Oui.
À Fréquence Mistral, on a des bénévoles qui, tous les 15 jours, invitent dans leur émission Catalyse, qui est diffusé de 20h à 21h, un jeudi sur deux, donc, des artistes locaux. Donc, on a eu déjà toute une belle liste d'artistes locaux, que ce soit des groupes de rock ou de rap ou de chansons françaises. Je crois que c'est bien pour eux et c'est bien pour notre radio aussi de faire découvrir. Et effectivement, ça amène un public plus jeune, puisque les émissions sont en podcast après sur le site. Et notre réseau Facebook, si je peux insister sur... bien sûr, maintenant, ça va être regroupé, mais à Digne, en tout cas, il est régulièrement tenu à jour. Dès qu'il y a un reportage qui est mis en ligne, une émission, c'est tout de suite en lien sur la page Facebook de Fréquence Mistral. Et c'est vrai que ça amène aussi les gens qui n'ont pas pu écouter en direct parce qu'ils étaient au travail ou... Du coup, ils sont avertis aussi de ce qui se passe et ils vont écouter. Voilà.
C'est ça. Et donc, du coup, en parlant des artistes locaux précisément, certaines deviennent bénévoles et puis certaines deviennent salariées aussi. Donc, on en a dans nos rangs.
Ouais, ouais.
Donc, non, c'est aussi ça, la magie de la radio.
Ouais.
Voilà.
Alors, j'avais une autre question aussi par rapport aux podcasts. On peut voir depuis quelques temps que les podcasts arrivent sur les plateformes de streaming de musique comme Spotify ou Deezer. Est-ce que c'est prévu de...
Alors, on s'est posé la question. On n'a pas encore tranché. Mais c'est vrai que ça devient incontournable. Donc après, voilà, je pense qu'on ne pourra pas passer à côté, c'est évident. Mais voilà, c'est pas le cas actuellement. On n'est pas là-dessus. Mais pourquoi pas, oui, je pense que dans un futur...
Parce que je pense que ça peut aider à toucher un public plus jeune, par exemple, comme nous, qui utilisons beaucoup les applications.
Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr, bah c'est ça, ça touche un public différent. Chaque plateforme va avoir sa cible, entre guillemets. Donc oui, marcher sur Facebook, bon bah voilà, vous avez une certaine population. Si vous allez sur d'autres plateformes sans les citer, vous en avez d'autres. Donc le but, c'est d'être un peu partout. Faut pas non plus s'éparpiller, parce que c'est pas simple de tout gérer. Il faut beaucoup de temps, c'est assez chronophage pour pouvoir gérer tout ça. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des choses à pas mettre de côté et à réfléchir sur ça. Donc, on a réfléchi, on n'a pas tranché, mais je pense que malgré nous, on va y aller dans tous les cas.
Et vos bénévoles, est-ce que vous avez une idée du nombre de bénévoles Est-ce qu'il y en a, c'est compliqué dans, il y a certaines années où il n'y en a pas du tout
Je pense que ce n'est pas une histoire d'année. Peut-être que ouais, Odile peut
vous compléter. Ça bouge un peu. Il y a eu des habitués qui venaient, surtout les bénévoles avaient envie d'animer des émissions musicales. C'est le premier réflexe qu'ils ont, c'est pouvoir passer les musiques qu'ils aiment, inviter des personnes à la radio. Donc il y a eu Louis Fine pendant quelques années, pendant 3 ans. Il y a eu Kilowatt FM. Donc ça change. Il y a des gens qui, après, en fonction de leur emploi du temps ou quelquefois il y a une lassitude, donc qui arrêtent. Et puis il y a d'autres qui se présentent. Là, c'est le cas pour Catalyse. Ça fait plus d'un an maintenant, cette émission le jeudi soir. Ils ont encore l'engouement, la passion, le plaisir de faire découvrir les gens. Et c'est vrai que ça. Et puis, on a aussi des partenariats avec l'UIT aussi. Mmh. On a eu beaucoup d'émissions faites par des étudiants. Et c'est intéressant aussi, parce qu'ils n'ont pas la même façon d'animer une émission. Ils vont tout de suite avoir envie de faire des jeux en direct avec... Voilà, savoir des choses pour la vie étudiante aussi, où ils vont donner les bons plans pour les sorties. Enfin, il y a plein de questions de jeunes. C'est intéressant aussi de les voir se débrouiller, d'organiser leur propre émission avec les questionnements aussi d'environnement.
En tout cas,
c'est très riche.
C'est ça, et puis il y a à peu près la même volonté dans tous les territoires.
Ouais. Donc, mais comment on peut faire si, par exemple, on a envie... de faire une émission.
Tu le dis.
Eh ben voilà, il suffit d'en parler et de voir ce que vous avez envie de proposer.
Ouais. Les bénévoles, en général, ils nous contactent. Ça vient, j'allais dire, ils viennent pas du ciel. En général, on les connaît, ils sont déjà présentés, on les a déjà rencontrés dans des manifestations, ce genre de choses. Donc, il y a déjà eu un contact. Après, voilà, il y a des discussions et après, bah, suivant les envies, vous pouvez proposer des choses. Et comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où ça rentre dans la ligne éditoriale, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, en tout cas.
D'accord.
Et dans ce cas-là, où il y a des bénévoles, je veux dire, par exemple, le soir, c'est eux qui... Enfin, on leur montre comment faire la régie s'ils sont complètement novices. En général, souvent, ils sont un peu dans la musique, donc ils savent plus ou moins se servir de la table de mixage, mais voilà. En général, ils sont... autonomes, on leur fait confiance, on leur donne la clé, et puis voilà, on récupère l'émission après, et c'est nous qui la mettons en ligne, mais voilà, ça demande aussi d'être autonome.
Oui, c'est ça.
Bah, c'est parfait. Hein.
Voilà, toutes les questions pour la radio, c'est...
voilà, c'est okay. Ça, on a posé toutes nos questions.
Alors,
c'était très intéressant.
Ouais.
Ouais.
Vous, ça, apparemment, ça vous donne envie d'être bénévole à la radio?
Non, ça ne va pas donner envie. C'est une première expérience et comme tout, il faut tester pour savoir si on aime ou on n'aime pas. Mais ça fait découvrir un domaine et ce n'est pas une grosse structure non plus. Ce n'est pas une grosse radio nationale. Et c'est là où on peut voir les différences entre plus du local et du national. Donc c'est intéressant à découvrir.
Oui, c'est ça. L'avantage de la radio associative, pardon, c'est qu'elle est un peu plus accessible, normalement, que les radios d'autres catégories ou d'autres classes.
Et ça va peut-être parler de sujets qui vont plus nous toucher, par exemple, le local, que...
A priori, oui. En tout cas, c'est le but.
Et vous, alors, dans vos projets, puisqu'on a le temps de voir... vous avez un projet avec l'ONAC, c'est ça? C'est tous les deux?
Oui, tous. L'école, même... C'est l'école, on a un projet avec l'ONAC sur la résistance dans le 04.
Ça, sur la libération de Manosque et de Djinn. Donc, on a été rencontrés directement l'ONAC qui nous ont présenté le projet. Et donc, bah, nous deux, on est dans un groupe, on fait un travail de mémoire sur la résistance du maquis fort de France à Barème. Et donc, c'est pour une exposition qui ensuite va être... sur des panneaux, Sanchez, Adjin. Et donc, ouais, voilà, on a déjà été aux archives, on a rencontré les différents représentants de l'ONAC, et donc aussi à Manos qui travaille aussi là-dessus, à l'école de la deuxième chance là-bas. Pareil pour nos autres collègues, du coup, de l'E2C de Gigne qui font des recherches par exemple sur des résistants comme François Cuzin ou des résistants qui ont marqué en fait la libération des Basses Alpes. Et voilà, ce sera début avril, il me semble.
Donc là, ben ouais, c'est pour ça nous permet de montrer et de pas oublier ce qui s'est passé ici dans notre région. Ça a été des moments forts pour les habitants d'ici, de pas oublier leur mémoire. Et voilà, moi j'ai de la famille qui a résisté ici à Barème. La plupart de toute ma famille a été résistant et donc ça me permet de leur rendre un hommage, de pas oublier leur mémoire et que les gens prennent conscience que ça n'a pas toujours été compliqué ici et qu'on en est là, c'est grâce à eux et qu'il ne faut vraiment pas oublier.
Bravo, merci.
Ben, merci à vous.
Merci pour vos questions pertinentes et puis et vous pouvez remercier Marisa Kammer.
Oui, merci beaucoup d'être venue.
Ben, merci à vous. Merci à vous pour vos questions.
Ben, oui.
Merci à vous deux, très belle expérience.
Ouais, ça c'est vrai.
Et donc, on va se quitter en écoutant une musique que vous avez choisie. C'est Massilia Sound System.
C'est ça.
Et le titre ?
Un dimanche au Goud.
Voilà. Merci à vous. Au revoir.
Merci, au revoir. Merci.
On va passer un dimanche au Goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au Goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papis, les mamies, les policiers, les voleurs, veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne, on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver, il faut patienter, là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port. Mais quand arrive l'été, l'appel des Goudes est le plus fort. On va passer un dimanche au Goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au Goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Du printemps au printemps, trop de mauvais délire résonne dans la ville et mon esprit chavire. C'est le chable partout, vraiment pas de quoi rire. Ça file tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons là tous ces fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur.
On va passer un dimanche au Goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au Goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Dans la main, oh, dessus la gamme, quasi même au paradis.